Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 3, scène 6. À son retour à Moscou, la princesse Marie y avait retrouvé son neveu et le gouverneur, ainsi qu'une lettre du prince André qui l'engageait à continuer sa route sur Voronej et à s'y arrêter chez sa tante, Madame Malvintsev. Les soucis du déménagement, l'inquiétude que lui causait son frère, l'organisation d'une nouvelle existence dans un nouveau milieu, les figures inconnues, l'éducation du petit garçon, toutes ces circonstances réunies étouffèrent pour un temps dans l'âme de la pauvre fille les tentations qui l'avaient tourmentée pendant la maladie de son père, après sa mort, et surtout après sa rencontre avec Rostov. Profondément attristée et inquiète, la douleur que lui causait la mort de son père s'ajoutait dans son cœur à celle que lui faisaient éprouver les désastres de la Russie, et, malgré le mois de tranquillité et de vie régulière qu'elle venait de passer, ses pénibles sentiments semblaient croître en intensité. Le danger que courait son frère, le seul proche parent qui lui resta, la préoccupait constamment. Il s'y joignait encore le souci de l'éducation de son neveu, tâche qu'elle ne se sentait pas en état de remplir. Malgré tout, elle était foncièrement calme, parce qu'elle avait la conscience d'avoir maîtrisé les rêveries et les espérances caressées tout d'abord à l'apparition de Rostov. Le lendemain de sa soirée, Madame la gouvernante se rendit chez Madame Malvintsev pour lui faire part de son projet. Tout en insistant, vu les circonstances présentes, sur l'impossibilité d'une cour en règle, elle lui représenta que rien n'empêchait de réunir les jeunes gens et lui demanda son consentement, qui lui fut accordé de grand cœur. Ce premier point réglé, elle parla de Rostov en présence de la princesse Marie. Il lui raconta comment il avait rougi en entendant prononcer son nom. Celle-ci, au lieu d'éprouver un sentiment de joie en l'écoutant, ressentit un malaise indéfinissable. Elle ne jouissait plus de ce calme intérieur dont elle était si fière autrefois, et elle sentit que ses espérances, ses doutes et ses remords se réveillaient en elle avec une nouvelle force. Pendant les deux jours qui s'écoulèrent entre cette visite et celle de Rostov, elle ne cessa de penser à la ligne de conduite qu'elle devait suivre envers lui. Tantôt elle prenait la résolution de ne pas paraître au salon de sa tante, en prétextant son deuil, et au même moment, elle se disait que ce serait manquer de procéder envers celui qui lui avait rendu un si grand service. Tantôt il lui semblait que sa tante et la femme du gouverneur formaient des projets sur Rostov et elle, et alors elle se reprochait ses pensées, qu'elle attribuait à son iniquité. Comment pouvait-elle les croire capables de songer à un mariage lorsqu'elle portait encore des pleureuses? Et cependant, elle s'ingéniait à composer les phrases avec lesquelles elle devait l'accueillir, mais dans la crainte d'en dire trop ou trop peu, elle n'était satisfaite d'aucune. Et d'ailleurs, son embarras ne trahirait-elle pas l'émotion qu'elle ressentirait à sa vue? Mais lorsque son valet de chambre vint lui annoncer, le dimanche après la messe, l'arrivée du comte Rostov, une légère rougeur couvrit ses joues, et ses yeux devinrent plus brillants que de coutume. Ce furent les seuls indices de ce qui se passa dans son for intérieur. « L'avez-vous vu, ma tante ?» demanda la princesse Marie avec calme, surprise elle-même de paraître aussi tranquille. Rostov entra. La princesse baissa la tête la durée d'une seconde, comme pour lui donner le temps de saluer sa tante, et, la relevant aussitôt, elle rencontra son regard. D'un mouvement plein de grâce et de dignité, elle lui tendit sa main douce et fine, lui dit quelques mots, et des cordes d'une douceur toute féminine, qui jusque-là lui étaient restées muettes, vibrèrent dans le timbre de sa voix. Mademoiselle Bourienne, qui se trouvait là par hasard, la regarda avec stupéfaction. La coquette la plus artificieuse n'aurait pu agir plus habilement à l'égard d'un homme qu'elle aurait voulu captiver. « Est-ce le noir qui lui va si bien? Où est-elle embellie? Et quel tact, quelle grâce! Je ne l'avais jamais remarqué !» se disait la Française. Si la princesse Marie avait été capable de réfléchir à ce moment-là, elle eût été bien plus étonnée que sa compagne du changement qui s'était opéré en elle. À peine eût-elle aperçu ce visage qui lui était devenu si cher qu'un flot de vie dont l'influence la faisait agir et parler en dehors de sa volonté, l'envahit tout entière. Ses traits se transfigurèrent et s'illuminèrent d'une beauté imprévue. Tel un vase dont les fines ciselures ne présentent qu'un enchevêtrement de lignes opaques et confuses, jusqu'au moment où une vive lumière vient éclairer les parois transparentes. Pour la première fois, le travail intérieur auquel s'était livrée son âme, ses souffrances, ses aspirations au bien, sa résignation, son amour, son abnégation, se résumèrent dans l'éclat de son regard, le charme de son sourire et dans chaque trait de son visage délicat. Rostov le vit aussi clairement que s'il l'avait connu toute sa vie. Il comprit qu'il avait devant lui un être différent de ceux qu'il avait rencontrés jusque-là, et beaucoup meilleur, surtout supérieur à lui-même. La conversation roula sur différents sujets. Il fut question de la guerre, de la dernière rencontre, sur laquelle Nicolas glissa légèrement, de la femme du gouverneur et de leur parenté mutuelle. La princesse Marie ne fit aucune allusion à son frère et changea même de conversation lorsque sa tante en parla. Ce sujet la touchait de trop près pour être le sujet d'une conversation banale. Pendant un moment de silence, Nicolas s'adressa, pour sortir d'embarras, comme on le fait souvent là où il y a des enfants, au petit garçon du prince André, et lui demanda s'il avait bien envie d'être hussard. Il le prit dans ses bras, le fit jouer, et, se retournant involontairement vers la princesse, il rencontra son regard attendri et heureux. Elle suivait timidement des yeux les mouvements de son neveu chéri dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Il comprit la signification de ce regard, rougit de plaisir et embrassa l'enfant de bon cœur. Il ne se crut pourtant pas autorisé à revenir la voir souvent, à cause de son grand deuil. Mais la femme du gouverneur continua à manœuvrer et lui répéta ce que la princesse Marie avait dit de flatteur sur son compte, et vice-versa. Elle insista pour qu'il y eût une explication, et arrangea à cet effet, chez l'archevêque, une entrevue entre les jeunes gens. Rostov ne cessait de lui dire qu'il ne pensait guère à se déclarer, mais il fut obligé de promettre qu'il se rendrait chez ce dernier. De même qu'à Tilsit, où il n'avait pas hésité un moment à accepter pour bon ce qui était reconnu tel par les autres, de même aujourd'hui, après une lutte courte, mais sincère, entre le désir d'organiser sa vie selon son goût et une humble soumission au destin, il choisit cette dernière voie, où il se sentait entraîné malgré lui. Il savait qu'exprimer ses sentiments à la princesse Marie, étant encore lié à Sonia par sa promesse, c'était commettre une lâcheté dont il était incapable. Mais il sentait aussi, au fond de son cœur, qu'en s'abandonnant à l'influence des circonstances et des personnes, non seulement il ne faisait rien de répréhensible, mais laissait s'accomplir un acte important dans son existence. Sans doute, après son entrevue avec la princesse Marie, il vécut en apparence de la même vie qu'auparavant. Mais les plaisirs dont il s'amusait jusque-là perdirent pour lui tout leur charme. Les idées qui se rapportaient à elle n'avaient rien de commun avec celles que lui avaient inspirées jusque-là les autres jeunes filles, ni avec l'amour exalté dont il avait jadis entouré l'image de Sonia. Comme c'était un honnête homme, s'il lui arrivait d'associer une jeune fille à ses rêves de mariage, il la voyait invariablement en robe de chambre blanche, assise derrière le samovar, entourée d'enfants qui appelaient papa et maman, et il trouvait du plaisir à descendre jusqu'au moindre détail de leur vie de famille. Mais la pensée de la princesse Marie n'évoquait pas ces tableaux-là. Il avait beau essayer d'entrevoir l'avenir de leur vie à deux, tout y était vague et confus, et lui inspirait plutôt un sentiment de crainte.